Trois les guitares, on chante les Bérus, les amis de ta femme ou Brassens. Je goûte le plaisir d'avoir des week-ends libres, où je peux sortir et faire la fête.
C'est venu d'une nécessité et d'un truc un peu matériel, le fait de squatter des espaces vides et de traîner pas mal dehors, c'est qu'on n'avait pas trop de lieux où se retrouver. Et c'est vrai quand même que de là, on a développé un peu tout un, je sais pas, tout un attrait, tout un sentiment quand même de liberté et un peu de puissance, et aussi qui est lié à l'adolescence, quoi, d'avoir le sentiment de découvrir un peu le monde, d'avoir l'impression que la ville nous appartenait, parce que à Bar-le-Duc, passé 23h, il y a plus personne dans les rues, quoi. Donc nous, on se construisait notre monde, quoi, avec notre imagination. Et notre bande de potes, quoi. Et donc il y avait vraiment un sentiment, moi je trouve en tout cas, avec le recul d'insouciance et un sentiment de liberté qui était très fort et qu'on a éprouvé tous ensemble, qui je pense a fait quand même qu'on a eu le sentiment pour beaucoup d'avoir passé une très belle jeunesse et une très belle adolescence. Voilà, après on occupait des lieux, bon, sans forcément se dire qu'il fallait les occuper parce que c'était des bâtiments vides et avoir toute une réflexion politique autour de ça. Je pense qu'on les occupait parce que voilà, ils étaient vides et qu'on avait envie de faire la teuf. Mais c'était aussi une époque où on bloquait notre lycée, où on commençait à avoir aussi une réflexion politique sur le monde qui nous entourait, à s'influencer mutuellement aussi les uns les autres et un peu à grandir ensemble et à s'approprier un peu ces idées-là et cette vision du monde. Et aussi beaucoup nourri par un imaginaire de contre-culture, que ce soit un peu punk, certains avaient des groupes de punk, ou de littérature américaine, voilà, Beat Generation et tout. Du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de romantisme là-dedans et beaucoup de fantasmes, mais j'ai le sentiment que ça nous a marqués tous fort et que ça contribue à être ce qu'on est aujourd'hui et surtout à conserver les liens qu'on conserve et la force de ces liens-là, quoi.
Je sais pas pourquoi après on a arrêté d'y aller. Je pense parce qu'il y avait une génération qui est partie à la fac, moi je suis resté et on avait d'autres endroits pour faire la fête, on avait changé de lieu. On a su par d'autres potes qu'il y a d'autres gens qui ont continué à aller dans ces lieux-là. Et notamment un groupe de gens qui allaient régulièrement, qui même en après-midi, qui faisaient la fête, qui fumaient, qui buvaient, enfin qui faisaient des activités, qui faisaient du graffiti dedans. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait un incendie dedans, en fait. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et du coup, elle a été fermée, murée. Et je pense que maintenant, j'y suis pas encore retourné, mais je pense qu'on peut plus rentrer dedans. En tout cas, il y a eu un dommage par le feu, il n'y a pas eu de travaux, ça n'a pas été racheté, enfin j'ai pas l'impression. C'était comme si c'était la fin d'une époque, quoi. Un petit clin d'œil à notre jeunesse.
Putain, frappe, merde!
Dans ta chambre, je frappe, la salle de bain, c'est pour nous deux. C'est quoi?
Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là.
Oh là là! Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier! Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes! Ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle Enfance Maltraitée!
Eh ben, appelle-les! Appelle! Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content!
Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Oui, je serais bien content! Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Putain, on peut même plus se branler tranquille dans cette maison!
Je pense qu'adolescent, je rêvais de voyager dans le temps et qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une obsession, l'arrêter.
Bon allez, c'est la fin de l'émission, on se regroupe, on ramasse tout, on ramasse les feuilles,
oh,
on ramasse
va,
les canettes,
va,
les lampes, les micros.
Ouais, c'est bon, on est pas aux pièces.
Mais attends, tu rigoles là, t'as vu quelle heure il est, 19h10, on est hyper à la bourre là. Allez, on y va.
Bon, on fait quand même un petit effort, on se fait un petit bilan. Bas-relief, t'as retenu quoi? Il est où Bas-relief? Il est derrière. T'as retenu quoi des musiques Bas-relief?
Les musiques
qu'on a diffusées, les musiques qu'on a diffusées.
Les musiques c'est... Oh là
là. Les musiques
bas-relief.
Ah ça va, j'avais pas de stylo, ça va. Ok. Ouais.
Moi bien je sais, il y avait Vidéo Club et SDM. Par contre le générique de fin là, aucune idée.
Bah là ce qu'on écoute c'est College.
Ah elle n'a pas le générique de fin.
Ça va.
Et moi je l'avais, College.
Oh le faillot. Oh le faillot, et genre le texte de Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, tu l'avais aussi?
Bah non, oh, mais
bien, pas bien, ça. Ok, ça va, stop,
s'il vous plaît. On écoute. En termes de film, il y avait quoi? Les stop. Films.
Stop. Non, c'est ce que c'est un film, hein, ça va.
Moi je sais, mais.
Moi aussi.
Il y avait.
C'est
toujours à moi qu'on demande aussi. Il y avait deux mois.
Deux mois,
ouais.
C'était.
Il n'y avait pas aussi un extrait de, des beaux gosses de Riyad Sattouf, là, le mec qui fait les BD?
Ah, ça t'a parlé direct.
Ce soir. On était très heureuses et heureux d'être en direct sur Radio Canu à Lyon, Radio Prévert à Chalon-sur-Saône.
Et en public à la Méandre. La Méandre, magnifique lieu chalonnais qui nous accueille donc dans le cadre du deuxième, de la deuxième édition pardon, du festival Micro-Ondes.
Merci. Allô, les studios de Radio Canu, si vous nous entendez, il est l'heure de balancer les infos.
Salut.
Eh bien, émission, mais pas de générique, parce que, a priori, notre CD a décidé de planter en plein lancement, donc tant pis. Mais c'est quand même l'heure du Canu Info, il est 19h, passé de 8 minutes. C'est parti. Alors, de quoi on va parler?
Eh bien, on va parler de Il y aura des brèves, d'abord.
Ouais, après on va parler de violence sexuelle sur mineurs, parce que...
Après, on parlera du procès de la 69, pour mettre... un petit peu de légèreté.
Le ministre de l'Intérieur contre l'administration.
Ensuite, l'immunité de Netanyahou, pour mettre un petit peu de légèreté.
Et puis, hein, il faut que ça sache, parce que c'est généralement aussi source de bonne humeur.
Ah, bah, voilà. Il y a des bonnes nouvelles dedans.
Ah, ouais. Dis donc.
Eh bah, dis donc, bravo. Bon, félicitations.
Bon, on n'a pas de CD, je
m'attends. Il va falloir faire sans aucun habillage musical ou quoi qu'est-ce pendant ce Canu Info, j'ai l'impression.
Allez. Moi je vais parler de Boualem Sansal.
Allez.
Voilà, si y en a qui savaient pas, mais qui se tiennent pas bien au courant des petites embrouilles politico-merdiques. Voilà, Boualem Sansal, c'est qui? C'est un écrivain algérien. Comme Kamel Daoud qui vient d'avoir le concours, c'est un arabe qui aime pas les arabes. Un écrivain encensé en France parce qu'il dit du mal des arabes et de l'islam à chaque occasion. Ce qui permet à des Français de dire on n'est pas raciste, puisqu'on est d'accord avec des Arabes sur le fait que les Arabes et les musulmans sont tous des gros nazes. Par ailleurs, Boualem Sansal vient de prendre parti dans l'histoire du Sahara occidental. Alors là, il a pris parti contre les indépendantistes, pour l'impérialisme marocain. Pas vraiment par amour du Maroc, a priori, mais plutôt parce que lui est algérien et que l'Algérie est contre le Maroc sur ce dossier. Donc Boualem Sansal ne tient pas particulièrement à soutenir les Sahraouis, mais il tient à faire chier son gouvernement algérien. Et malgré tout, il ne faut pas penser, malgré tout ce que je dis, que les gens qui tiennent à faire chier leur gouvernement, ça me laisse complètement indépendant, hein, complètement indifférent. Alors, par là-dessus, le gouvernement algérien décide de mettre Boualem Sansal en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc voilà un gouvernement bien autoritaire, bien craignos, qui met en prison, pour une déclaration à la con, un écrivain de droite, raciste et occidentolâtre. Eh ben, bon Dieu, moi, quand je fais les infos, souvent, j'aime bien prendre parti pour les uns ou pour les autres, mais il y a des cas où tout le monde est vraiment trop pénible.
Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas de générique, parce que mon ordinateur où j'essayais de choper mes vieux MP3 vient de me faire un vieil écran bleu. Bon, bref, c'est la Bérésina. Ah non, mais je te coupais ton micro parce que tu t'ouvrais un paquet de chips.
Ah bon, si vous voulez, je peux faire de la musique avec ma bouche entre deux...
Non, je pense qu'on n'aura pas de générique.
Entre deux brèves, ok.
Donc, la Cour d'appel de Paris confirme les poursuites pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Et on parle bien d'Alexis Kohler, le puissant bras droit de Macron, qui pourra donc se retrouver devant le tribunal pour avoir participé comme haut fonctionnaire de 2009 à 2016 à plusieurs décisions relatives à la société dirigée par le cousin de sa mère. Oui, on ne finit pas bras droit de Macron en venant de nulle part, on se rappelle. Il a notamment participé de 2012 à 2016 à des choix stratégiques sur des dossiers impliquant donc la société MSC à Bercy, alors qu'il était membre du cabinet de Pierre Moscovici, puis ensuite d'Emmanuel Macron. Donc c'était quand les deux étaient ministres des Finances. Il nie bien sûr s'être impliqué dans de tels dossiers et avoir informé sa hiérarchie de ses conflits d'intérêts pour qu'elle le tienne bien sûr éloigné de toute tentation de venir interférer en faveur du cousin de sa mère. Donc, et il a également, parce que quand même il est obligé d'essayer de jouer sur toutes les parties, ce pauvre monsieur, jouer sur une tentative de prescription des faits, prescription que la Cour d'appel a rejetée, notamment à cause, je les cite, d'éléments positifs pour dissimuler ce conflit d'intérêts. Donc évidemment, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec sa version d'avoir déclaré ces fameux conflits d'intérêts. On comprend mieux pourquoi Anticor, l'association qui lutte contre la corruption, qui était à l'origine de la relance de cette affaire, des investigations dans cette affaire, comme dans plein d'autres, hein. C'est pas juste celle-là, mais ils font un peu un espèce de gros travail pour éviter de que ce genre de situation se produise, ou en tout cas passe crème. Donc ils s'étaient vu retirer, alors je sais plus la date exacte, mais leur agrément d'investigation, et l'État était un peu obligé, était un peu contraint, enfin le gouvernement était un peu contraint de leur refiler cet agrément. Je sais plus si dans cet épisode-là, si c'était s'ils avaient été obligés de manière légale ou suite à un peu des pressions médiatiques, mais en tout cas voilà. Donc pendant un temps, en tout cas, ils n'avaient plus le pouvoir d'investigation sur ce genre d'affaires, pouvoir qui leur a été retrouvé, heureusement.
Rappelons que du coup, le cousin de ta mère, c'est ton cousin au premier degré. T'as même pas le droit de te marier avec, normalement.
Alors moi, le cousin de ma mère, me parle pas comme ça, il n'a rien à voir avec.
Ouais, mais de manière générale, bah, t'as pas le droit de te marier non plus avec.
Très bien.
Ah, et attends, bref, moi aussi, j'ai encore une petite balle.
Ah, t'as vu ?
Le gouvernement s'oppose au transfert des orques détenus au parc de Marineland d'Antibes, à leur transfert vers le Japon. Parce que pour les associations de protection animale, et donc validées par le gouvernement, un tel transfert vers un pays aux règles de bien-être animal moins disantes qu'en France contredirait l'esprit de la loi votée en 2021, actant la fin des spectacles de dauphins et d'orques. Alors j'adore parce que le gouvernement et les associations se préoccupent d'un orque, peut-être deux ou trois même, parce que le bien-être animal, c'est important. Juste à l'heure où je vous parle, et uniquement en France métropolitaine, environ 17 millions de poulets vivent dans des élevages en batterie. Ah, maintenant, je fais une petite musique.
Ah,
là,
tu...
mais... Non, parce qu'on va pas faire de musique, parce qu'on va parler violence sexuelle sur mineurs.
Ah ouais, non, on va pas faire de musique du coup. Pardon. Il est hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Je vous le dis en tant qu'élu et en tant que père de famille, ce programme en l'état n'est pas acceptable et doit être revu. Du coup, c'est pas une déclaration de moi, c'est une déclaration du ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel. Alors oui, ça commençait un peu comme un emploi fictif et après ça se rattrape, mais quand même, on sait pas pourquoi c'est lui qui du coup est venu discuter d'un sujet quand même relativement polémique, qui était la mise en place... Alors, je vais expliquer pourquoi polémique, hein, parce que à la base ce serait cool, la mise en place d'un programme sur l'éducation à la sexualité et qui devait être mis en place pour la rentrée 2025 sur recommandation du ministre Papendaï. Alors pour expliquer, on a eu un petit point par notre collègue prof, et du coup je le fais en... c'était pas ce que j'avais écrit à la base, du coup ça va être plus long que prévu ce que je vais raconter, mais bon. Du coup il disait que normalement c'est déjà prévu, donc ça vous devez le savoir parce que vous devez y avoir eu le droit vous-même dans vos études, c'est déjà prévu depuis extrêmement longtemps, qui est dès la maternelle régulièrement des points qui soient faits. Ces points ne sont apparemment faits systématiquement, aucun bahut, parce que lui il dit qu'il sait ça parce que notamment c'est lui qui s'en occupe dans son propre bahut. Et en tout cas, il y avait un projet du coup depuis 2023, lancé par Papendaï, donc notre précédent, vous savez, le ministre qui était la caution de gauche du ministère d'il y a trois... Enfin bon, ça change tout le temps. Et du coup, il avait dit, pour 2025, on aura un joli programme tout net, et il suffira que les profs puissent l'enseigner, il n'y aura plus besoin d'avoir des spécialistes de la question pour faire ça. Et du coup, levée de bouclier de l'extrême droite... qui refuse ce programme. Et a priori notre ministre a l'air plutôt parti pour soutenir l'extrême droite dans sa levée de bouclier contre le programme du woke Papendaï, parce que dans ses déclarations un peu plus loin il y avait ça, qui laisserait pas rentrer le wokisme. Rappelons que la Civise, qui est l'organisme indépendant, enfin ministériel indépendant, lancé sur les violences sexuelles à l'égard des enfants, rappelle qu'en moyenne, dans une classe, trois enfants ont subi des violences sexuelles, et que pour l'immense majorité d'entre eux, ça fait partie, enfin c'est la famille qui est responsable de ces violences sexuelles, et que du coup la revendication de l'extrême droite, c'est de laisser à cette dite famille le loisir d'enseigner aux enfants est-ce que ou pas ils vont pouvoir être victimes de violences sexuelles. Voilà, de là à dire que l'extrême droite et notre gouvernement protègent les pédophiles, il n'y a pas qu'un pas que je ferai allègrement. Et pour vous dire quand même que c'est un peu une histoire montée en épingle, c'est qu'à Lyon aujourd'hui il y avait une manifestation contre le wokisme et la transidentité, c'était ça qui était marqué sur la banderole. Du coup,
faite par une association dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu une résurgence de la Manif pour tous.
Voilà, et du coup j'ai pu compter parce qu'ils ont mis leurs photos sur internet, ils étaient 19, parce qu'il y a une toute petite tête qui dépasse là sur la photo. Ils étaient donc 19 à cette manifestation. 19, mais quand même soutenu par un ministre, ce qui fait que ça gagne contre les 5 fois plus nombreux, j'ai eu la flemme de compter, contre-manifestants qui étaient en face. Pendant ce temps-là, la justice rendait le verdict concernant les 3 pompiers jugés dans l'affaire du viol en réunion de Julie, 15 ans à l'époque des faits, et aujourd'hui handicapé à plus de 80% après plusieurs tentatives de suicide. Tiens, il y a une partie de mon texte qui a sauté. La partie de mon texte où je rappelais qu'ils étaient une vingtaine de pompiers. Alors j'avais plus de détails, mais ils étaient une vingtaine de pompiers à avoir été poursuivis au début. Étrange. À avoir été poursuivis au début et dont certains qui avaient déclaré qu'en effet ils avaient eu des relations, mais tout à fait consenties. Donc rappelons-le, avec une mineure de 15 ans. Voilà, toujours est-il que donc ils étaient 3 à être jugés. L'un d'entre eux a été acquitté, pendant que 2 autres, Pierre...
En sachant que c'était pas une fois chacun, hein, c'est un truc où ça a duré...
Mais c'est pour ça qu'ils disaient... En gros, ils ont tous plus ou moins dit qu'ils avaient une relation amoureuse avec cette jeune Julie, 15 ans.
On me rappelle que tu viens de parler de 20 pompiers.
Voilà, 20 pompiers, donc pompiers, rappelons qu'ils sont plutôt majeurs, hein, du coup, tous. Donc au pire, ça a l'air d'être un détournement de mineurs. Mais enfin bon, bizarrement, il y a que trois chez qui la justice a trouvé assez à reprocher. Et je dis trois, mais en fait non, puisque un des trois a été acquitté, pendant que les deux autres, Pierre et Julien, du coup, étaient condamnés respectivement à 4 ans pour l'un et 15 mois pour l'autre de prison, mais attention, avec un sursis simple. Et, inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Voilà, voilà, je laisse...
Radio Canu. Ah. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Bon, on va pas faire que du glauque. On a des nouvelles de, alors des nouvelles pas toutes récentes parce qu'on voit elles datent de hier voire avant-hier, de l'A69 et qui sont potentiellement une annonce, une probabilité de bonnes nouvelles. Puisque il y a un procès qui se déroule devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif, c'est le tribunal qui statue quand des citoyens sont pas contents avec l'État globalement ou les trucs qui dépendent de l'État. Et c'est un tribunal qui marche avec quelqu'un qui s'appelle le rapporteur ou la rapporteuse publique, qui est la personne qui examine le dossier, qui vient donner ses conclusions. Et la plupart du temps, mais vraiment dans l'écrasante majorité des cas, le juge administratif suit les recommandations de la rapporteuse publique. Et là, dans les histoires autour de la 69, ce qui était attaqué, c'était la dérogation qui autorise la destruction d'espèces protégées. Dérogation qui a été octroyée par l'État au concessionnaire Atosca en mars 2023. Dans cette affaire, la rapporteuse publique a donné ses conclusions. Et ma foi, ces conclusions disent qu'il faut juste tout arrêter, qu'il faut annuler l'autorisation du chantier en raison de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur. Alors elle dit qu'à son avis, cette autoroute serait utile. Mais entre utile et impératif d'intérêt majeur, il y a une différence. Donc elle dit, la raison impérative est la première condition à remplir pour obtenir une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Or, l'autorisation environnementale qui a été accordée à Atosca en mars 2023 comprend une dérogation et doit donc faire la démonstration de cette raison impérative. Si la raison n'est pas là, l'édifice tombe. Et l'édifice, c'est-à-dire tout, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, l'autorisation n'a pas lieu d'être. Si l'autorisation n'a pas lieu d'être, il n'y a pas d'autoroute. Et qui c'est qui gagne ? Les Amis de la Terre, France Nature Environnement attaquent le groupe national de surveillance des arbres et toutes ces associations qui ont déposé une requête au tribunal administratif de Toulouse en 2023. Alors le concessionnaire lui a fait valoir plusieurs arguments en faveur de la construction de l'autoroute, mais enfin bon, c'est toujours les mêmes qu'on entend depuis des années. Le développement économique du bassin d'emploi de Castres-Mazamet, un gain de temps de trajet d'une vingtaine de minutes pour se rendre à Toulouse et la réduction des risques d'accident en évitant la traversée des hameaux et villages le long de la RN 126, cette route qui existe déjà pour relier Toulouse à Castres. Bon, bah, la rapporteuse publique n'a pas été convaincue. Il n'est pas déterminé qu'il y a une raison impérative d'un intérêt public général, blablabla. Elle trouve que c'est pas vrai, qu'il y a une hausse de quoi là, du bassin d'emploi, de machin. Enfin bon, elle trouve qu'on s'est bien foutu de sa gueule. Voilà. Le tribunal va-t-il faire comme la plupart du temps, suivre l'avis de la rapporteure publique, ou bien va-t-il faire comme la plupart du temps aussi finalement, suivre l'avis des gens qui ont du pognon et du pouvoir ? Réponse dans 15 jours.
Et c'est le moment de s'écouter une petite musique. On va s'écouter Cazet avec À la gloire de mon glaire.
D'un joli coloris vert, je l'ai fabriqué un soir où je suis sorti col ouvert. J'avais pas de mouchoir donc je l'ai jeté par terre. Déçu de pas avoir ta gueule en guise de crachoir, je te l'aurais mis pleine tête, pleine mâchoire, avec une mine satisfaite avant d'aller me rasseoir, en regrettant tout de même la lame de mon rasoir que j'aurais utilisé sur toi en me fiant au hasard. J'aime pas les gens de pouvoir qui ne cherchent qu'à le faire savoir, portent sur la misère des autres un regard sévère, qui dans un plus culottes vertes et du haut de leur tour d'ivoire s'étonnent faussement que d'autres rêvent encore dehors en hiver. Les salauds, les sans-cœurs, les milliardaires centenaires, ces mercenaires sans merci, profiteurs de guerre, et qui même à l'agonie veulent se couvrir de gloire. Je voudrais trouver ces ports pour les couvrir de clair, avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Je t'aurais bien fait ramasser par la Babsa, tabasser puis lécher les chiottes du Chapsa, laisser sans un sou jusqu'à chier dessus, pousser crasseux dans un trou sur un temps de sensu. Et si toutefois tout ça n'était pas suffisant, je t'aurais fait bouffer des bols de crachat pendant 10 ans et pleurer cette diarrhée incrustée à tes os. Même pas sûr que ça t'aurait rendu beaucoup moins méprisant. Dire que t'as osé, connard, quand t'as causé, prétendre que si certains se tuaient au rosé, n'étaient pas en cause, licenciement ou saisie, mais bien au fond sans raison, ou qu'il l'avait choisi. Tu sais quoi, on va s'arrêter là, c'est fini. Vu que je suis dans le dédain et que toi t'es dans le déni, j'ai trop d'envie de violence et puis de dégoût mêlé, et ras-le-bol de voir ta sale gueule à la télé. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Et puis j'en ai de plusieurs catégories, de différentes formes, textures, grosseurs ou gabarits. Jamais en milieu fermé, toujours dehors et aéré, en activité par tous les temps ou en train de galérer. Et mon molar est le roi là où il atterrit, parfois gore gluant et gras, souvent mousseux et serré. Ce n'est que le compagnon indigné de mes péripéties, quand ma périphérie semble éloignée, incarcérée. Alors souris sérieux, tout ça c'est rien. Qui est le plus vulgaire entre le rappeur, le vandale et le vaurien? Quand la tolérance zéro sévit sur le terrain et que le pouvoir se comporte réellement comme le parrain. Avis aux pourris, aux bourreaux et aux bourrins, je suis paré, parez-vous, vous voudrez, puis courez. J'adore honorer, redécorer les terrains, et ma salive vénérée pour ça est un rat de marée. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Avec mes viscères du fond de mon ulcère, pour mes adversaires sincères. Je voudrais dédicacer ce petit crachat du mois de novembre aux prétentieux, aux hautains, aux arrogants, aux pédants, aux enfoirés, aux autres. Non, on va s'arrêter là. C'est un crachat sincère dans vos gueules de faussaires.
Et ben on peut dire que cette chanson est aussi dédicacée à la personne qui est concernée par la prochaine info, voire celle encore d'après, voire celle encore d'après.
Bon, on peut le dédicacer à peu près tous les gens concernés par nos infos de ce soir. Alors, depuis 2016, les haltes de consommation à moindre risque, enfin maintenant on dit haltes soins santé, sont autorisées à type expérimental en France. Pour les plus d'assassinus d'entre vous, c'est-à-dire essentiellement vous deux hein, dans le studio, ça doit vous dire quelque chose, enfin j'espère, parce que sinon vraiment ça sert à rien. Je vous en avais déjà parlé à l'occasion d'une tentative d'implantation à Marseille qui s'était arrêtée alors que les locaux avaient été aménagés, l'équipe embauchée, que tout était prêt. Mais oh là là, ça a tout mélangé dans mon... Putain, ok, vous m'en voulez pas, ça va être un peu capricieux, je vois que mon texte est tout mélangé, mais bon, du coup, pour les plus... Bon, du coup, pour... Ah, je recommence une petite explication, du coup, pour les autres, pas pour les petits plus assidus. Les HAS, c'est des lieux de soins ouverts au public où les consommations de stupéfiants sont autorisées, dans un cadre sécurisé, en présence de travailleurs sociaux, mais surtout en présence de travailleurs médicaux. Alors, si je vous en reparle, c'est parce que Le Monde a sorti un article à ce sujet. Alors, du coup, c'était lundi dernier, parce qu'on a eu un petit saut de... Et on y apprend que le gouvernement a encore commandé un rapport à ce sujet. Encore, parce qu'en 2021, un premier rapport très fourni de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, avait conclu à l'efficacité du dispositif.
encore aussi parce que des recherches existent en réalité depuis 1986, date de la première ouverture de salle, et que 80 salles... Ah, il y a eu des problèmes parce qu'en fait c'est 126. J'avais trouvé plus tard. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avec mon texte. En tout cas, avec 126 salles de ce type existent sans qu'aucun aucun pays qui met en place ce genre d'approche ne décide jamais de revenir en arrière. Il y a donc à ce sujet de nombreuses études scientifiques et même depuis 2017, une méta-analyse, vous savez, c'est ce truc où on prend plein d'études et on regarde ce qu'elles disent toutes pour voir si ça va bien dans la même direction ou pas, ou s'il y a des études. Enfin bon. La littérature grise, elle, donc les rapports des administrations et tout ça, produits par les institutions, convergent aussi toujours dans la même direction. C'est efficace. Voilà, bon, ça marche. Et puis ça fait à peu près ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire protéger la santé publique et puis réduire éventuellement les problèmes de voisinage. Mais tout ça, c'est souvent en anglais. Du coup, on comprend rien. Et du coup, ils se sont dit, on ne va pas leur faire confiance parce que c'est dans la langue de la perfide Albion. Et puis parce que c'est à la mode d'être complètement con. Voilà. Du coup, il y avait cette étude de l'INSERM qui a été menée sur l'expérimentation qui a lieu en France. Étude dont personne ne doute des sérieux. Dans un travail produit en 2022, du coup un autre encore, sur les difficultés d'implantation de ces salles et les raisons des difficultés d'implantation de ces salles, et du coup pour essayer de trouver des solutions à ces difficultés d'implantation. Les membres de l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, interviewés à ce sujet, déclaraient, j'ai rarement vu une évaluation de politique publique aussi complète que celle-ci. Sur le fond, nous étions assez impressionnés par l'expertise de l'INSERM. Donc il faut vous dire qu'a priori, c'est pas un problème de sérieux de la première expertise qui a amené à commander la deuxième expertise. Du coup... ils ont lancé une troisième si on compte celle de pourquoi on n'y arrive pas, une troisième expertise dans la langue de Molière, en circuit court, tout ça, pour confirmer ce que dit la littérature étrangère, parce que quand même, on ne sait jamais. Et puis, un rapport d'une institution médicale pour parler de drogue, c'était peut-être un peu bizarre. Et du coup, comme tout le monde sait que la drogue, c'est plutôt une question de terrorisme et de trucs comme ça, enfin, en tout cas, ces derniers temps, apparemment. Et du coup, faut que j'arrête de digresser un moment, ça tombe bien, c'est là. Du coup, je vous disais, on apprend dans Le Monde de lundi qu'au printemps dernier, le gouvernement a commandé un rapport à l'Inspection Générale des Affaires Sociales et à l'Inspection Générale de l'Administration, donc ces deux institutions qui sont un peu censées aider les décideurs publics à guider leur action. L'évaluation a été commandée conjointement par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Et les deux ministères, c'était censé les aider à trancher au sujet de cette expérimentation. Le rapport a été rendu et ces deux ministres ont fait le choix de ne pas le rendre public. Alors, vous imaginez qu'en pleine guerre à la drogue, le cascadeur de l'intérieur est évidemment hostile à ce projet. Et du coup, son prédécesseur n'était pas plus enjoué que lui d'ailleurs. Il aurait déclaré, parce qu'il y avait un projet d'implantation à Lille qui était aussi bien avancé, je vous en ai pas parlé, c'était bien avant, mais voici, je vous en ai parlé dans celui sur Marseille. Mais bon, et il avait déclaré, moi, vivant, jamais. Le type exagère rien du tout. Du coup, le résultat de l'enquête, vous vous en doutez un peu, hein, sinon ça aurait été publié. La mission recommande de, je cite, « mener à son terme l'expérimentation en cours ». Elle déclare aussi que la fermeture des deux HSA, donc les haltes sans addiction qui existent, dégraderait la tranquillité publique, mettrait en danger les usagers aux conditions de vie déjà très précaires et mobiliserait inutilement des forces de police pour gérer les consommateurs rendus à l'espace public. Elle interviendrait à contre-temps, donc ça continue, hein, dans un contexte de disponibilité accrue des stupéfiants, alors que les professionnels de l'addictologie alertent sur la vague qui monte. Plus loin dans le rapport, au sujet de l'opposition des riverains, les HSA, l'autorité rappelle que de coup les haltes soins addiction n'engendrent pas de délinquance. À titre d'exemple, les seringues ramassées autour des salles parisiennes sont passées de 150 à moins de 10 par jour, alors que quelques 550 000 injections ont lieu dans les deux structures tous les ans, soit autant de moins dans l'espace public. Donc ça, c'est toujours le rapport qui rappelle ça. Il rappelle aussi que toutes les nuisances liées à la drogue ne disparaissent pas pour autant. Il reste des consommateurs dans l'espace public. Le nombre de salles à Paris, notamment, est jugé insuffisante. Il rappelle dans le rapport toujours qu'à Berlin, il en existe 7, à Hambourg 4, à Cologne 2. Et donc, on rappelle
Dans toute la France, il y en a autant qu'à Cologne, qui est une ville un peu plus petite que Lyon, si je ne me trompe pas. Enfin, même beaucoup plus petite que Lyon. Et de rappeler que les consommations de drogue préexistent dans les quartiers d'implantation, et que du coup, les salles ne créent pas de nouvelles consommations, qu'elles font que les faire rentrer dans ces salles. Ils élargissent d'ailleurs la focale en rappelant que les politiques publiques de réduction des risques, dont les haltes aux soins addiction font partie, doivent bénéficier d'un portage assumé et univoque de la part des services publics. Et ils concluent en rappelant que inscrire dans le droit commun les dispositifs, qui sont encore, donc, comme je vous le disais, sous statut d'expérimentation, serait à prévoir, notamment la possibilité d'ouvrir de nouveaux lieux. L'expérimentation qui a été commencée en 2016 devait s'achever en 2025. Si le contenu du rapport est écouté, du coup ça devrait continuer, mais a priori on peut se douter que s'ils l'ont enterré, c'est qu'à la base ils n'avaient pas l'intention de continuer.
Canu Info du mercredi.
Et qu'est-ce qui lui arrive à Netanyahou?
Et alors, quand même, avant de parler de Netanyahou, parce que c'est vrai, finalement, genre, on ne l'avait pas mis dans les titres, mais quand même, on va re-signaler vite fait que le cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le Hezbollah a commencé cet après-midi, 4 heures heure locale, 3 heures heure de Paris. Et bon, dernière nouvelle là, avant de rentrer dans le studio, ça avait l'air de tenir.
Bravo à Israël d'avoir réussi à se retenir 3 heures du coup.
Pour le moment.
Juste avant, ils avaient quand même, je crois, balancé une petite salve.
Ils avaient balancé une bonne salve juste avant. Et aussi, ils ont prévenu que quand même, alors eux, ils doivent se retirer, mais qu'ils vont le faire lentement et que pendant ce temps-là, s'ils croisent quelqu'un, ils le dégomment. Ils ont prévenu les gens qu'il fallait quand même pas être pour l'instant dans cette partie du Liban, qu'il fallait pas essayer de rentrer chez eux tout de suite. On verra plus tard, mais pour l'instant, ouais, pas trop vite.
C'est un concept, cette trêve.
C'est un concept. Voilà, il va y avoir une phase de transition de 60 jours pendant laquelle, 60 jours pour que les militaires israéliens arrivent à regagner la frontière. Pendant que l'armée libanaise, alors oui, il y a un truc qui s'appelle les forces armées libanaises, c'est 3 ou 4 bons hommes avec des uniformes et, peut-être des opinels ou quelque chose comme ça. Eux, ils doivent reprendre, réoccuper le terrain que Israël va laisser. Le Hezbollah, lui, par contre, ne doit pas s'approcher de la frontière à moins de 20 km. Enfin, c'est une vingtaine de kilomètres, mais c'est surtout rester derrière un petit cours d'eau qui passe là-bas. Le Hezbollah, lui, ils ont dit que ouais, ils allaient le faire. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Voilà, quoi d'autre? Ouais, bon, il y aura des casques bleus, il y aura un comité de surveillance avec principalement les États-Unis et la France dans ce comité de surveillance. Il faut dire que les États-Unis et la France sont les grands artisans de ce cessez-le-feu. Et alors, rapport ou pas rapport, en France pendant ce temps. Attendez, je vais recommencer autrement. Ce qui est bien avec la France, c'est la constance dans ses décisions et le fait qu'elle est un phare qui aiguille la boussole morale du monde. Et ça se remarque dans plein de cas. Et par exemple, il y a quelques jours, quand la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou, pas seulement Netanyahou, mais aussi son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Et enfin, dans la même charrette, contre Mohamed Deif, qui est le chef de la branche armée du Hamas. Les trois sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bon, comme ça, une accusation qui n'a pas l'air hyper déraisonnable pour chacun des trois. La France est un des pays qui croit encore officiellement très fort et qui proclame très fort croire dans les institutions internationales, l'ONU et toutes ses émanations. Alors ma foi, la Cour pénale internationale, que je vais appeler à partir de maintenant la CPI, ça se respecte. Par ailleurs, la CPI, classiquement, met en accusation et arrête parfois des dirigeants principalement africains, ou en tout cas de pays pauvres, ou en tout cas ennemis de l'Occident. Disons que ça va de Hissène Habré, un ancien président du Tchad, qui lui a été arrêté, jugé, emprisonné, jugé, et qui va mourir en prison, à Vladimir Poutine, qui va pas être arrêté si facilement, mais en tout cas qui a été mis en accusation, ennemi de l'Occident. Alors là, mettre en accusation par contre le président élu d'un grand pays occidental, et quand je dis occidental, bien sûr, c'est pas une histoire de géographie, c'est une histoire de qui est qui, d'un grand pays occidental directement soutenu par les Américains, alors ça, c'est une grande première. Il faut vraiment que Israël y soit à l'effort, et Israël y est vraiment à l'effort. Tiens, une petite statistique en passant. En 13 ans de guerre en Syrie, la guerre, qui a été décrite quand même comme particulièrement meurtrière, a tué 2% de la population du pays. À Gaza, en 13 mois, on est arrivé à 2% de la population qui a été tuée. Alors voilà que les pays occidentaux... attention, quand on dit pays occidentaux, en l'occurrence, on parle des pays membres du statut de Rome, c'est-à-dire les pays qui ont signé la convention internationale qui instaure la CPI. Ce qui comporte la plupart des pays occidentaux, mais pas tous, et par exemple, et en particulier pas les États-Unis. Les États-Unis trouveraient bien trop scandaleux qu'on juge tous les crimes de guerre ou tous les crimes contre l'humanité, parce que, ma foi, bien trop de leurs militaires auraient des soucis. Mais les pays européens, globalement, sont signataires du truc. Voilà que les pays occidentaux, donc, se sont retrouvés confrontés à un choix, les principes ou les potes. Alors, soit on considère que la justice vaut pour tout le monde parce que c'est la justice, l'état de droit, le droit des états, tout ça, blablabla, soit on considère qu'on est allié avec Israël et que c'est le plus important. Certains pays occidentaux ont fait un choix clair avec une déclaration un peu carrée. L'Italie, le Canada, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni ont affirmé qu'ils respecteraient leurs obligations vis-à-vis de la Cour. En fait, là, je viens de vous citer 6 pays, mais il y en avait 7 qui ont cité cette déclaration, qui ont signé, non, pardon, je viens de vous citer 5 pays, mais il y en avait 6 qui ont signé cette déclaration, un de plus, et celui qui avait signé en plus, c'était la France. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, finalement,
dans ma foi,
hein, en même temps, la France s'est souvenue que, quand même, enfin, bien sûr, non, mais c'est sûr, tout le monde va respecter ses obligations. Mais encore faut-il savoir quelles sont précisément les obligations en question. Et là, justement, bref, le ministère des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie française ont expliqué aujourd'hui que tout ça ne concernait pas vraiment Benjamin Netanyahou. Le prétexte juridique, c'est que Israël n'a pas signé la Convention de Rome et donc le pays et ses dirigeants ne... Pardon. Ah ouais, c'est ça. Et donc le pays et ses dirigeants sont en dehors de ce système. Et comme ils sont en dehors, ma foi, il ne faut pas les arrêter. C'est comme si... comme si quelqu'un qui comme si quelqu'un dit au flic qui vient l'arrêter, ah moi le contrat social
je ne
l'ai pas signé, donc je ne suis pas concerné par vos lois, laissez tomber, passez votre chemin.
Non, t'es pas assez jeune, t'as pas vu, je ne contracte pas.
Ah non,
je te raconterai.
Ouais, d'accord. Alors un argument dont on n'a jamais entendu parler quand on parle de Poutine par exemple, qui n'a pas non plus signé, hein, ou quand on parle d'un misérable chef d'État africain, dont je ne suis pas sûr qu'ils aient tous signé, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ah ouais, mais alors ça bah, par contre, il s'avère que la Palestine, malgré le fait qu'elle ne soit pas un État, a signé le statut de Rome à un moment où ils espéraient justement faire condamner Israël pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'était en 2015. Ce qui fait que théoriquement, ma foi, ce Mohamed Deif, lui, s'il passe en France, il va se faire serrer vite fait, bien fait. Et alors, les mauvaises langues racontent que selon des sources, hein, ce qui veut dire qu'on est sûr de rien en vrai. Cette déclaration de l'immunité de Netanyahou aurait été le prix pour que, alors soit, ça c'est plutôt la version Haaretz, pour que Israël accepte de signer le cessez-le-feu avec Hezbollah. Avec le Hezbollah, auquel cas, ma foi, pour un cessez-le-feu, ça vaut peut-être le coup de... On pourrait comprendre que ça vaut le coup d'affirmer, renoncer à un principe qui, de toute façon, n'aurait jamais eu d'application, parce que, ma foi, Netanyahou ne va juste pas aller dans les pays où il risque de se faire arrêter.
Si ça se trouve, juste pour foutre la merde en France, tu sais, pour faire un petit aller-retour comme ça, t'as genre, ah, alors, vous êtes cap ou pas cap?
Ouais, c'est vrai. Non mais ou encore, et ça c'est plutôt par exemple la version du Monde, ça aurait été le prix pour que la France ait le droit de se vanter d'avoir... Merde, ma feuille suivante est pas la bonne.
Participer au cessez-le-feu.
D'avoir été active dans cette histoire de cessez-le-feu. Alors c'est peut-être vrai, mais ou alors plus vraisemblablement, c'est que le gouvernement français trouve trop incroyable de devoir arrêter un chef d'État blanc et pro-américain, un peu comme le policier municipal qui on demanderait d'aller arrêter le notaire, en quelque sorte.
Ah, c'est tout. Ah bah, très
ouais, bien. C'est tout.
Tant pis, j'avais pas prévu le générique. Tant pis pour toi. Et en plus, parce que je rajoute une petite info qui était pas prévue, mais il y a le communiqué du comité de soutien de l'occupation Gilbert dans le deuxième. Alors, pour rappel, la ville de Lyon, comme au grand temps de Gérard Collomb, a décidé conjointement avec les préfectures d'expulser le campement qu'il y avait autour de la place Carnot où où il y avait plusieurs familles qui avaient trouvé des abris sous des tentes pour faire place nette, pour laisser place à la magie de Noël et à ce magnifique moment qu'est le marché de Noël de la place Carnot. Donc il était bien sûr hors de question pour les touristes et les badauds d'apercevoir la misère qui a lieu à Lyon. La mairie a donc décidé d'expulser ça. Les familles ont décidé d'occuper une école qui était vide depuis juin pour se mettre à l'abri. La nouvelle adjointe au logement s'est rendue sur place et comme il s'agit de Noël, elle leur a dit d'accord, vous pouvez rester jusqu'au 15 décembre. C'est un demi-Noël parce que c'est quand même un peu des demi-jours.
Vous êtes disons que le moment où il y a le plus de gens qui veulent voir la magie de Noël dans les rues à Lyon, c'est plutôt le 8 décembre.
Ah bah oui, bah il y a ça, tout à fait. Et voilà, bref. Tant d'humanité, ça me fait perdre mes mots. Et elle a exigé que le collectif Jamais sans toi, qui file des coups de main un peu aux familles, porte seule la responsabilité de vider l'école à cette date. C'est vraiment des ordures, c'est genre, non, fais pas le sale truc. Non, ouais, là, quand même, on atteint des niveaux. Voilà, ce en quoi il dit, bah, en fait, nous, on fait que soutenir et respecter les décisions des familles, mais il est un peu hors de question qu'il décide de faire place nette à la place des flics. Donc voilà, donc cette école est promis à un beau projet artistique de l'école des Beaux-Arts. Voilà, il y a un communiqué qu'on trouve sur Rebellion avec tout un tas de revendications. Il précise que l'école, bien sûr, est occupée, qu'elle permet d'accueillir les gens dans des conditions assez confortable entre guillemets, c'est-à-dire que l'école est en bon état, mais il demande notamment à la mairie, puisque ça caille sévère, que la mairie allume le chauffage de l'école, ce qu'elle est en possibilité de faire de manière assez simple, ce qui mettrait les gens dans des situations sécurisées faciles, c'est-à-dire que s'ils le font pas, c'est-à-dire que les gens vont bien sûr se chauffer dans plein de moyens plus bricolés et donc ils risquent plus d'avoir des incendies par exemple. Voilà, il demande au pouvoir public de laisser entrer les soutiens et les dons, de pouvoir échanger collectivement avec, c'est un sigle, mais avec l'INSBA, qui doit être un peu le gestionnaire du lieu. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà, pour trouver des solutions et des solutions pérennes d'hébergement pour toutes et toutes. Donc il y a un comité de soutien occupation de l'école Gilbert. Bon voilà, vous trouverez les contacts.
Vrai, à chaque fois que tu dis Gilbert, on a l'impression de dire Gilbert Dru.
Oui, tout à fait.
Gilbert Dru, pour une fois, c'est pas eux.
C'est pas du tout Gilbert Dru qui est dans le 7e.
Félicitations mais c'est bien à Gilbert Dru pour une fois être pas eux.
Au cœur de ça. Non, ouais, du coup, c'est bien l'école Gilbert qui est dans le 2e arrondissement. Voilà, sachant que on peut rappeler ce qui tourne un peu dans l'hébergement d'urgence en ce moment, c'est que le nouveau plan froid va être, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était sacrément dégueulasse avant. Là, c'est vraiment.
Il y a trois catégories.
Ah bah c'était
il y a, alors, si vous me laissez deux minutes, j'ai les trois catégories, les vraies. Mais
ah bah alors vas-y, pendant que tu cherches, du coup, en gros, le communiqué fait aussi un appel aux dons. Donc c'est possible les gens ont besoin de coups de main et notamment de matériel. Dans ce matériel, il y a sac poubelle, produits de nettoyage, balais, savon, shampoing, serviette, brosse à dents, couverture, papier toilette, coloriage, jouets, matelas, micro-ondes, nourriture, eau minérale. D'expérience, moi j'ai l'impression, peut-être tenez-vous-en à la liste. Ça vaut peut-être pas le coup d'amener, sauf si vous voulez ramener des pains au chocolat, parce que c'est toujours cool, mais des fois par exemple les gens ramènent plein de trucs et les gens croulent sous des trucs un peu peu utiles et qui est compliqué de se débarrasser par la suite, parce que les gens sont vite jugés, genre hop, ça s'est vu notamment au square dans le 7e là qui est occupé par des jeunes, les gens croulent sous des fringues, ce qui est très bien dans un sens, mais du coup on se débarrasse des fringues par exemple qui sont mouillées comme ils en ont plein, et les gens du quartier disent ah bah vous voyez, on leur apporte des vêtements et après ils les jettent dans les poubelles. Bon voilà, bon.
Oui, justement, j'ai maintenant 200 pulls en laine moche. Ouais. Alors,
voilà, du coup, t'as les catégories.
Ouais, alors vous allez voir, mais alors du coup, faut vous préparer parce que du coup, ça a été vraiment pondu par un cerveau très, 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 Enfin, ils sont au-dessus de nous, quoi, ces gens. Et du coup, il y a trois critères, enfin, il y a trois niveaux. Et selon ces trois niveaux, ils donnent le droit à trois niveaux d'accès à des trucs. Donc, le premier niveau, il faut être une famille avec un enfant de moins d'un an. Ou une famille avec une personne ayant une pathologie grave, ayant une répercussion sur le quotidien et ne permettant pas des soins appropriés à la rue.
C'est très très exclusif.
Et, ouais, bah, du coup, ça laisse pas grand monde. Mais en plus, du coup, bah, c'est... Enfin, du coup, avant, c'était des gens qui étaient prioritaires, juste. Mais là, du coup, ça devient la priorisation 1. Une grossesse de plus de 6 mois en subsidiarité de la compétence de la métropole, c'est-à-dire que la métropole normalement est censée les prendre en charge une partie des personnes ayant plus de 6 mois et du coup bah là quand la métropole s'en occupe pas, ils disent on le fera. Et les familles avec une personne à mobilité réduite ayant besoin d'un appareil adapté. Donc béquille non, canne non, peut-être fauteuil roulant, mais peut-être ce sera fauteuil roulant électrique, on sait pas parce que le critère est pas très clair. Alors ouf, les critères que je viens de vous dire, ils sont pas cumulatifs. Ça peut être un au choix. Ouf.
Il y a quelqu'un de gauche
dans cette catégorie. Ouais, ouais, ça c'était
le parti socialiste.
Il a dit non, mais quand même peut-être il pourrait en avoir qu'un seul de ces quatre.
Ils ont dit d'accord.
Et ils ont cédé après une longue réflexion avec eux-mêmes. Niveau 2, il faut avoir une famille avec un enfant de moins de 3 ans. Ou alors une famille qui a un membre atteint d'une maladie chronique et maladie grave. Donc autant vous dire que la première fois, ça voulait dire que le type, il était censé avoir vraiment une sale maladie. Parce que s'il y a chronique en 2, en 1, c'était que le cul de jatte manchot, ça va peut-être pas être assez, quoi. Et du coup, en 3, toutes les personnes avérées à la rue. Et du coup, donc c'est là où je vous dis que c'est quand même retors, c'est que à partir de là, il y a des dispositifs mobilisables pendant la période hivernale. Critère 1, tu as le droit à l'hôtel. Ok, c'est des prises en charge de 3 mois et tous les 3 mois on réévalue si tu rentres toujours dans le critère 1. Voilà, critère 2.
C'est-à-dire, on le rappelle, les enfants de entre
donc pour les enfants de 3 ans de moins d'un an. Non, de moins de 3 ans. Ah, le critère 2, c'est moins de 3 ans. Ouais,
ouais, c'est ça.
Critère 2, moins de 3 ans.
Et les gens qui ont une maladie
famille
grave.
Famille avec maladie grave, et ouais, c'est ça. Ah oui, le critère 2 aussi n'était pas cumulatif. Donc, t'as pas besoin d'avoir un enfant de moins de 3 ans et une maladie grave. Et vraiment, ils sont trop sympas. Et du coup, ce critère 2, tu as le droit à une orientation dans un lieu pendant 3 nuits. Après ces 3 nuits. Et ben du coup après ces 3 nuits qu'est-ce qui t'arrive?
Bah, obligatoirement dois... passer 2 nuits dehors avant d'avoir le...
Tu rigoles mais c'est 4.
Ah c'est 4.
Tu dois passer 4 nuits dehors et après tu peux redemander. Et s'il y a de la place on te redonne 3 nuits. Parce que autant de vous dire que c'est... Il n'y a pas genre des gymnases, il y a une salle.
Et en gros pour faire vite, ce que ça veut dire c'est que jusqu'à il y a pas très longtemps il y avait ce qu'ils s'appelaient la discontinuité de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire que c'était, vous vous souvenez, c'était le fameux 3 nuits, c'est-à-dire que vous pouviez passer 3 nuits en 115 mais après il fallait que vous passiez 3 nuits à la rue. Ça avait été retoqué par tous les notamment après le mouvement des Don Quichotte et
par
tout,
la loi accessoirement.
Ouais, c'est ça, par la loi, notamment la loi d'Hidalgo qui du coup impose une continuité d'hébergement, c'est-à-dire que vous êtes hébergé pendant le plan froid, bah vous êtes hébergé pendant tout plan froid. Déjà à la base ça devait être si vous êtes hébergé, point barre. Finalement ils ont trouvé des astuces et là en fait ils reviennent un peu sur cette espèce de droit fondamental.
L'astuce étant qu'ils fermaient les lieux.
Oui voilà. Et du coup c'est vraiment une remise en cause d'un principe de base, quoi.
Voilà. Et du coup pour les derniers là, je vous ai dit le critère 3, c'est-à-dire le tout venant, eux ils auront peut-être le droit à un équipement collectif, donc du coup un gymnase les soirs de grand froid. Voilà, a priori
donc très peu de place pour la trêve hivernale, enfin pour la
il y a pas de place d'ouverte
avec une gestion
ouais parce que du coup les nuits qui le critère 1, oui parce que vous aviez l'impression que le critère 1 c'était pour tous les gens qui rentraient dans le critère. Non, il y a un nombre de places en hôtel limité et du coup ils remplissent les hôtels. Et ceux qui n'ont pas de place, ils n'ont pas de place, quoi. Voilà. Et puis du coup, on les passe en critère 2.
Voilà.
Ça sache.
J'ai mis le générique court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va commencer par une bonne nouvelle. Clap de fin pour le Bibi Stockholm, le navire de la honte. Les autorités britanniques viennent de vider définitivement le Bibi Stockholm, ce navire prison qui hébergeait plusieurs centaines centaines de demandeurs d'asile dans des conditions insoutenables. Pardon. Pour rappel, ce navire souhaité par Boris Johnson devait maintenir les demandeurs d'asile enfermés le temps que leur procédure soit rapidement traitée pour pouvoir être expulsés dès leur refus prononcé, voire comme ils avaient aussi fait cette histoire d'expulsion vers le Rwanda. Du coup, les gens arrivés en Angleterre étaient enfermés sur cette espèce de bateau horrible, et ensuite, si leur procédure était invalidée, ils finissaient au Rwanda. En un an et demi à peine de fonctionnement, ce bateau aura coûté la vie à un jeune Albanais retrouvé mort dans les toilettes du bateau. C'est donc plutôt une bonne nouvelle de voir les derniers enfermés quitter cette prison flottante. Encore une bonne nouvelle, et cette fois-ci du côté de l'Italie, enfin pas tout à fait, plutôt du côté de l'Italie et de l'Albanie. Les quelques 295 policiers et travailleurs sociaux, eux c'est sacrément des raclures quand même, italiens destinés à gérer le centre de rétention
et policiers.
Ouais. Ont dû quitter les centres albanais qui étaient situés dans deux villes. En cause, la justice italienne, grâce à la justice italienne, qui a bloqué cette délocalisation en ordonnant le rapatriement au début du mois de 24 hommes en Italie. Toutes les délocalisations sont donc bloquées. Le tribunal a également saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle se prononce sur la légalité de la liste dressée par Rome des 19 pays sûrs, c'est-à-dire une liste que Rome aurait décidé que ces pays respectent les droits fondamentaux de manière courante. Donc je n'ai pas la liste là. Le gouvernement a saisi...
Juste pour ceux pas habitués de ce genre de liste, c'est pas la France, l'Allemagne, et souvent c'est genre on dit l'Afghanistan, non mais ça va finalement c'est sûr, parce que vous comprenez, s'ils vont à Khartoum et que... Non c'est pas la Khartoum, l'Afghanistan, mais s'ils vont à machin et qu'ils font truc et qu'ils ont une main sur la tête, ils seront pas exécutés, du coup ça va, sûr.
Et en gros vous venez d'un pays sûr, les procédures sont plus courtes, vous pouvez être expulsé plus rapidement. Bref, le gouvernement a saisi la Cour de cassation pour contester cette décision. Elle devrait se prononcer courant décembre, mais le délai de la Cour de justice de l'Union européenne est beaucoup plus long. En attendant, le centre reste vide et c'est tant mieux. Et on revient en France avec l'Observatoire des libertés associatives qui tire à boulets rouges sur les pressions que subissent les bénévoles aux frontières françaises. Alors l'Observatoire des libertés associatives relate dans son dernier rapport les menaces et pressions des pouvoirs publics que les pouvoirs publics exercent sur les bénévoles qui militent autour des frontières italiennes, espagnoles et sur le littoral du Nord. Vous voyez à peu près un peu les endroits où se concentrent les entrées. Le rapport rappelle que le délit de solidarité a été aboli en 2018 par le Conseil constitutionnel et qu'il a par là même acté le principe de fraternité dans l'aide humanitaire, cela n'empêche pas le harcèlement quotidien. Tout est fait pour entraver la moindre solidarité. Amende à répétition, garde à vue abusive, dépôt de rochers pour empêcher des distributions, etc. etc. Le rapport alerte sur l'attitude de plus en plus répressive à l'encontre des soutiens, ce qui signifie en creux que cette agressivité est également décuplée directement sur les migrants, mais le rapport, lui, ne s'occupe pas de ce volet-là. Pour éviter de se faire retoquer par le tribunal, les policiers présents aux frontières du pays, donc qui répondent à des directives hiérarchiques, imposent des gardes à vue non justifiées et dressent de nombreuses amendes difficilement contestables aux membres des assos. Par exemple, Utopia 56, pour sa part, a comptabilisé entre mars 2020 et mai 2021 104 contraventions pour un total de 20 000 euros. C'est-à-dire pour une petite association qui doit filer quand même un coup de main pour payer ses contraventions à ses bénévoles, ça représente un sacré manque à gagner si on n'est pas, par exemple, le cousin d'une grosse société comme Alexis Colère. Bref. Les soins et la vie des exilés est également menacée directement par ces pratiques. Quant à Briançon, des bénévoles ont été empêchés par la police d'emmener à l'hôpital une personne en hypothermie, ou à Dunkerque par exemple, où l'ouverture d'une clinique mobile est empêchée par le dépôt de blocs de béton. Pour l'Observatoire, comme pour les militants, l'objectif est clair. En plus de vouloir terrifier les exilés, tout est fait pour décourager et jeter du discrédit sur les associations.
Il faut que ça se sache.
Tac, et ben on reste à Calais, enfin on va zoomer à Calais plutôt. Et hop, vendredi, Retailleau va jouer les durs dans le Pas-de-Calais. Il répond à l'appel d'une quinzaine de maires qui, si ils parlent, les maires donc de tragédie humaine, ils réclament quand même. Donc voilà, ils en parlent juste vite fait. Ils réclament quand même, ils réclament juste plus de flics, une police judiciaire, un préfet chargé à l'immigration pour faire face à l'exaspération des habitants qui réclament également au ministre de montrer les muscles et des renégociations des accords du Touquet qui confient à la France la gestion des frontières. Bon, bien entendu, rien sur les noyades et tout ce qui se passe dans les campements. On imagine facilement que si Retailleau déboule à cet endroit, ça va être pour lâcher un peu sur les revendications. En tout cas, rien de bon pour les migrants dans le Pas-de-Calais. Ah, il est 19h59 et on a presque fini ces infos et on vous laisse avec Idées Noires juste après.